se contente à ce moment-là de recéder les biens aux journaux, les biens nationalisés à partir de 1954, et de les vendre aux journaux. Et il va contribuer, ces journaux viennent de la résistance pour certains, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ça va contribuer à les endetter. Et donc, au lieu de donner des moyens aux journaux, on va leur donner des dettes. Et dès les années 50, les journaux vont être endettés. L'État, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire les fins de mois. Et petit à petit, le patronat de presse va s'installer dans une espèce de système où chaque année, on va mendier de l'argent pour ci, de l'argent pour ça, de l'argent pour la distribution, de l'argent pour l'impression, de l'argent pour ceci, de l'argent pour cela. Aujourd'hui, de l'argent pour Internet. C'est quand même hallucinant de voir qu'aujourd'hui, on donne des subventions à des journaux comme Le Point pour faire des services Internet en ligne. C'est quand même totalement fascinant. Le Point qui appartient à Pinault. De quel droit l'État fait ça?
Jean Stern, dans votre bouquin, je rappelle le titre, « Les patrons de la presse nationale, tous mauvais ». Vous dites que ça a commencé il y a 20 ans, ce déclin. Alors là, c'est vraiment le toboggan, là. On est dans le toboggan. Pourquoi auparavant, qu'est-ce qui se passait? C'était l'époque, l'âge d'or de la pub.
Auparavant,
tous les journaux, et tous ces journaux étaient des sacs à pub, on appelait ça des sacs à pub.
Il s'est passé deux choses. D'abord, il s'est passé mai 68. Et mai 68 a consacré, d'une certaine manière, la mort d'une vieille presse, mais aussi a permis à une nouvelle presse d'apparaître. Et donc, si vous voulez, ce premier phénomène a fait que des nouveaux journaux sont apparus dans les années 70, Libération, Le Matin de Paris, d'autres encore, au même moment où d'autres journaux se cassaient complètement la figure, comme Paris Jour, comme Le Parisien Libéré, comme Combat, etc. Donc on a eu une espèce de vision d'optique. Deuxièmement, et surtout, il y a eu un développement énorme de la publicité dans les années 70 et dans les années 80. C'était l'époque de l'argent roi, Mitterrand incarne très très bien ça, d'une certaine manière, et Robert Hersant avec son Figaro Magazine aussi. Et en même temps, ces deux faces-là font que nous, on en a profité, les journalistes, c'est vrai, puisque grâce à cet argent de la publicité, Le Monde, à l'époque, Libération, où on était, Véronique et moi-même, on avait des moyens pour travailler, des moyens beaucoup plus importants.
Est-ce que les contenus étaient meilleurs?
Ah oui, je pense que les contenus étaient meilleurs, bien entendu.
Complètement, oui, parce que d'abord, on avait le temps de choisir ces sujets, on avait le temps de les réaliser, on avait une liberté quand même qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, et pas tant parce qu'il y a une influence directe des intérêts des propriétaires des journaux, c'est quand vous avez une rédaction exsangue, vous n'avez plus de moyens, ni de moyens de vous développer, ni moyens d'enquêter, ni moyens de partir en reportage, du coup vous payez moins les transports, vous acceptez des voyages de presse, enfin vous êtes grignoté de partout, qui fait que forcément le contenu est beaucoup moins bon.
Comme chaque jour, c'est ici, au 125 avenue Idéfixe de Grosville, que Sébastien Blattre se rend pour y exercer un métier dont il se flatte.
Journaliste.
9h, après la lecture du journal du jour, Sébastien s'attelle à sa tâche quotidienne, trouver un sujet percutant.
Je décortique les nouvelles du monde à l'affût du scoop. Ça, c'est mon côté Joseph Kessel, explorateur.
10h15, Sébastien a son sujet, c'est l'affaire Exclusif Knife.
Il y a une grosse banque grolandaise qui a commis des irrégularités sur le rachat d'une boîte américaine. C'est une vraie bombe. Ça, c'est mon côté Jean-François Kahn. Rentre dedans.
11h20, petit problème. Sébastien découvre que la filiale qui couvre la banque est détenue par François Porto-Maubeuge, qui se trouve être également le patron des éditions rotatives qui publie Le Grolandais. En clair, si Sébastien révèle que le contribuable va devoir rembourser la fortune que son patron s'est faite irrégulièrement, déontologiquement, c'est du journalisme, mais pragmatiquement, c'est la porte. 11h23, tout bien pesé, finalement la bombe restera à retardement.
Moi, personnellement, mon modèle, c'est Jean-Pierre Pernaut. Je pars du néant pour arriver à rien.
Alors, venons-en à ceux qui sont la cible du bouquin de Jean Stern, c'est-à-dire ses patrons de la presse nationale. Alors, on connaît leur nom, c'est Bernard Arnault, c'est Mathieu Pigas, c'est Pierre Berger, c'est Édouard de Rothschild pour Libération, c'est Vincent Bolloré, c'est Bernard Pinault, c'est Arnaud Lagardère, c'est Serge Dassault, etc. Il y en a encore quelques autres, mais pas tellement, je crois les avoir à peu près cités,
absolument.
Qui sont des gens qui sont dans le luxe, dans les armes, dans un certain nombre d'activités, parfois plusieurs activités eux tout seuls.
Non, c'est assez simple en réalité. Ils sont dans le luxe, dans l'armement, ils sont dans la banque et ils sont dans Internet. Voilà, c'est quatre secteurs et vous avez tous ces milliardaires. Alors effectivement, quand vous prenez quelqu'un comme Xavier Niel, il est dans Internet, il doit sa fortune au web. Le génie de Xavier Niel est évidemment d'avoir construit un empire à partir de ça, et d'avoir compris que les journaux